Ah, c'est mieux comme ça. Top. Non, je sais pas. On va voir que le truc. Et les gens, ils vont rien entendre comme ça. Hein, c'est un problème. Top, rêve top à tout le monde. Ferme le volet.
C'est pour son écran.
Ah non, moi ça va. C'est juste, c'est toi qu'on voit pas bien.
Ça va.
Ça va. Top, rêve top les coulards. Et ben on est parti, par Shach Shlach Lecha. Alors, la première question, elle est simple. Combien de personnes ont vu ce que j'ai dit lundi soir? Quoi? Non, non, pas avec mon fils.
Sur
Shach Lecha?
Non, moi j'ai rien entendu.
Personne n'a vu encore. Donc c'est bien. Très bien. Alors, je vous poserai plusieurs questions. La première, qu'est-ce qui peut pousser un juif, un Ben Israël, à ne pas vouloir venir en Israël? Bah, c'est ma première question. Bah,
il y a beaucoup de
choses. Bah, vas-y.
Parnassa.
Famille.
C'est quoi famille? Je ne veux pas quitter ma famille.
Je ne veux pas quitter les vieux.
Non, force d'inertie.
C'est-à-dire
la paresse.
On n'aime pas.
Ah, tu ne veux pas bouger. Non, okay.
Ça dépend l'âge des gens.
Je n'ai pas bougé.
Ça dépend l'âge, ça peut être les allocations familiales.
D'accord, ça peut être ça. Donc j'ai dit ça peut être la parnassa, d'accord. Ok.
Les gens aiment dimanche.
Pas de dimanche. La langue. La langue.
Et puis la vie très dure en Israël.
Les changements d'école, le balagan, ok, d'accord. Voilà, je vais m'adapter au style de vie qu'il y a ici.
On n'a pas de très bras ici.
On n'a pas de très bras. Ok, donc toutes les raisons que vous m'avez données sont des raisons pratiques. C'est-à-dire que vous avez donné, en fait, vous pouvez mettre tout sous une seule côtérette, sous un seul titre. Il y a des problématiques d'intégration techniques qui font que bah, le départ en Israël est compliqué. Ok. Est-ce que vous pourriez voir d'autres raisons qui ne rentrent pas du tout dans cette histoire de technique? Parce que imagine-toi quelqu'un qui parle hébreu, qui a une fortune énorme, qui a déjà des amis en Israël, bah, lui, tous les arguments que vous m'avez donnés, il n'y a pas. Attends,
ça,
bon.
Ça, c'est déjà
premier, hein, tu me donnes un autre argument. Bitachon. C'est-à-dire, c'est dangereux ici.
L'idéologie Satmar de New York.
Par exemple.
C'est-à-dire, idéologiquement parlant, il ne faut pas venir. Okay, c'est, même si tout est brose, tout est bien ici, il ne faut pas venir. Ok. D'autres avis? Ah,
c'est politique.
Voilà, humanisme pour des tendances politiques. Voilà, il y a, enfin, ouais, l'humanisme de gauche, qui te dit il y a des Palestiniens et on ne veut pas leur prendre la terre. On ne veut pas vivre qu'entre juifs. Au contraire, il faut être avec la culture mondiale. Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Si vous trouvez d'autres raisons, quand vous voulez. Mais là, on a l'air de pas mal avoir fait le tour de toutes les raisons qui feraient qu'un juif ne veuille pas venir en Israël. Je voudrais simplement rappeler que toutes ces raisons sont schizophréniques. Parce que, quelle que soit la raison, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a peut-être à l'origine un rapport entre le peuple d'Israël et la terre d'Israël. Non. Dans la Torah, dans notre paracha, on voit que les explorateurs vont utiliser tous vos arguments. Ils utilisent mamash tous vos arguments. Officiellement, ils disent, quand tu lis le texte de la Torah, ils disent ce que tu as dit. C'est dangereux. On n'arrivera pas. C'est dangereux. Ils te disent, ils sont trop forts, on n'arrivera pas à les battre, on va mourir à la guerre, machin. Donc ça, c'est l'argument officiel pshat de la Torah. D'après le Talmud, qu'est-ce qui se cache derrière l'argument qu'ils vendent au peuple? Il se cache un argument beaucoup plus profond.
On n'a pas confiance.
En qui?
En protection de
Dieu. En protection de Dieu. Alors, ils disent « Ki chazak hu mimenu ». Ça veut dire quoi? Ils pensent véritablement que les rois cananéens sont plus forts que Dieu? Je ne peux pas accepter, pour une raison très simple. Combien Yehoshua va battre de rois? Ceux qui ont lu le livre de Yehoshua, après il y a un calcul à la fin, 31. 31 rois dans la petite région qui a entre Dimona et Kiryat Shmona. C'est petit, c'est pas grand. 31 rois. Bon, tu as compris que chaque roi, ce n'était pas les États-Unis.
Non, c'était comme
Rochaïr. Oui, oui, bien sûr, le roi, c'est un Rochaïr. Mais ça veut dire l'étendue de sa puissance, c'est Monaco, quoi, au niveau militaire, je parle. Donc, quand tu as vu que ton Dieu, il a éclaté les États-Unis, puisqu'il a éclaté l'Égypte de l'époque, Pharaon.
C'était l'Empire.
Bah, c'était l'Empire complet. C'est même pas qu'il y avait le bloc de l'Est. Hein. C'était un monobloc. Et tu vas me dire que les petits rois là, de Canaan, ils sont plus forts que Pharaon ? Géopolitiquement parlant, géostratégiquement parlant, ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Si on a réussi à battre les armées de Pharaon avec l'aide de Dieu, les rois de Canaan, c'est finger in the nose, comme on dit. OK ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Kichazak hu mimeno ? Alors, ça veut dire que qu'est-ce qui est plus fort que lui ?
Leur Dieu à eux.
Leur Dieu à eux. Alors, ce n'est pas seulement leur Dieu à eux. La terre. La terre d'Israël et tout ce qu'elle comporte est plus fort que Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, je n'arriverai pas à m'extraire de la Artziout lorsque j'arriverai là-bas. Je serai trop dans cette terre. C'est-à-dire, je serai imprégné de sa spiritualité, Avodah Zarah. D'ailleurs, on va voir qu'ils n'ont pas tellement tort. Hein. Quand on va arriver, on va tomber. Mais je vais surtout maintenant devoir bosser la terre.
Et puis, il va falloir bouffer.
Il va falloir bouffer, il va falloir y travailler, il va falloir s'intégrer, il va falloir créer le butoir de l'Omi. Il va falloir créer... Non, pas du tout.
On n'était pas prêts.
Ben, on voulait pas. C'est pas qu'on n'était pas prêt, on ne voulait pas. Parce que je vous rappelle que depuis une semaine, c'est-à-dire depuis Baalot Echa, ils savent que Moshe ne rentrera pas en Israël, puisqu'il y a eu la névoie de Eldad ou Medad qui ont dit Moshe ne rentre pas. Donc, on va perdre Moshe. On n'aura plus la main. On n'aura plus les nuées protectrices. Rabotaille. On n'y arrivera pas. Donc, c'est un argument extrêmement profond. Ils disent, on n'arrivera pas à rester en contact avec Dieu parce qu'on sera imprégné de matériel. Ça, c'est la vie du Talmud. La vie du Zohar nous dit que les explorateurs qui ont été envoyés n'étaient pas n'importe qui. Raché, Béné, Israël, Hema. Donc, c'était les chefs spirituels du peuple juif et qui plus est à l'époque de Moshe. Donc, c'est pas du petit spirituel. Aval, nous dit le Zohar, qu'ils savaient qu'en rentrant en Israël, ils ne seraient plus les chefs, que d'autres dirigeants les remplaceraient, les dirigeants plus jeunes d'Eretz Israël.
Ça, c'est un argument aussi pour ne pas venir.
Voilà.
Parce que là-bas, tu es quelqu'un et voilà, ici, tu n'es rien. C'est ça, c'est un argument.
Oui, non, mais là, non. Mais oui, mais là, ça ne marche pas. Oui, c'est un vrai argument. Mais ce n'est pas l'argument qui est ici mis en place. Pourquoi ?
Oui.
Non, c'est un argument, c'est sûr. Mais parce que toi, tu quittes là-bas un endroit où tout le monde te connaît, tu arrives à un endroit où personne te connaît.
Ça,
mais là, ce n'est pas le cas.
A posteriori.
Non, je veux bien que ce soit posteriori, mais là, ce n'est pas le cas. Puisque là, ils vont venir avec tout le monde. C'est-à-dire que c'est la même Khevra. Donc, ce n'est pas le même. Mais j'accepte ton argument pour aujourd'hui. Mais ce n'est pas le cas de eux. Eux, ils disent simplement, on va se faire remplacer. On ne veut pas se faire remplacer. Or, soit tu peux voir ça pour des mauvaises raisons, des raisons intéressées, genre je veux rester collé à ma chaise. Ou alors, parce que je pense au peuple juif. Je sais que ceux qui vont me remplacer seront moins spirituels que moi, moins forts que moi. C'est dommage pour le peuple juif. C'est des vrais arguments. Qu'est-ce qu'on leur répond à tous ces arguments ?
On est à la maison.
On rentre à la maison.
On n'est pas encore à la maison. Là, je te parle.
Mais on va rentrer.
On va rentrer à la maison. Mais oui, mais... En vrai, ils ne la connaissent pas, cette maison. Ils n'y ont jamais vécu, ils n'y sont jamais nés.
Caleb leur répond
que
on va réussir.
On peut le faire.
Oui.
C'est pas ça l'argument. Parce que la preuve, ça ne marche pas.
C'est quand même
un héritage que Dieu leur a donné.
Bien fait. Dieu l'a dit. C'est-à-dire, tous les arguments que tu cites, ils sont recevables. Mais j'ai un contre-argument béton. Comme on dit dans les films, quand il y a toujours tout a l'air de partir en cacahuète et puis tout d'un coup le héros il va sortir un truc et on appelle ça un Deus ex machina. C'est-à-dire j'ai un joker, mais non mais Dieu il a dit on rentre. C'est pas compliqué quand même. Achat, ce Dieu il a dit on rentre. Est-ce qu'il est vrai que à l'époque de la paracha de Shlach? Bien non. Il est vrai dans chaque génération. Car je vous rappelle qu'il y a, d'après les 613 mitzvot, une mitzvah
d'habiter
en Eretz Israël. Non seulement d'habiter, mais de conquérir la terre d'Israël. Alors, la mitzvah de conquête, tu ne peux pas la faire toi tout seul, mais il y a une mitzvah. Oui, j'en ai marre de masque. C'est dur quand tu parles. Il y a une mitzvah d'habiter en Eretz Israël, point. De rachetem et ta'aretz, vishavtem ba. Venatati lachem et eretz kenan, liot lachem l'Elohim. C'est-à-dire, on a plein de versets qui nous disent clairement qu'on a une mitzvah d'y aller. Me répondront certains, oui, mais le Rambam, lorsqu'il a fait sa liste du livre des mitzvot, Sefer HaMitzvot, il ne l'a pas compté. Que faire? Que répondre à cet argument? Tu réponds que le Rambam lui-même l'a, oui, compté, mais ailleurs. Parce que dans Ilchot Melachim, il dit qu'il y a une milchemet mitzvah qui s'appelle « Conquérir la terre d'Israël ». Donc, il ne l'a juste pas compté en tant que mitzvah de Yeshuva Aretz, mais il l'a compté en tant que mitzvah de Kibush Eretz Israël. Donc, oui, il l'a compté. Et même si tu dis, tu veux quand même dire, non, mais ça, c'est la mitzvah de Kibush, mais pas la mitzvah d'habiter, il a répondu à cela dans la lettre qu'il a envoyée aux Juifs du Yémen, Geret Teman, dans laquelle il répond que n'est pas une mitzvah quelque chose qui est de l'évidence. Il n'y a pas de mitzvah de respirer, il n'y a pas de mitzvah de manger, il n'y a pas de mitzvah d'habiter en Israël. C'est barreau. Un juif, il habite en Israël. Quand il ne peut pas, il ne peut pas. Mais sinon, c'est barreau.
Mais c'est pas une mitzvah.
Donc à ce moment-là, le Rambam te dit, c'est même pas une mitzvah. Il n'y a pas de mitzvah de respirer, c'est une évidence. Cependant, le Ramban va lui la compter comme étant une mitzvah. Dans sa liste, il dit, c'est une mitzvah que le Rambam a oublié de compter, c'est une mitzvah. Viens un rabbin que personne ne connaît, parce que Rambam, tu connais, Ramban, tu connais, Rabbi Moshe Dileon, connais-moi. Baal Megillat Esther, et lui, il pense que cette mitzvah avait lieu jusqu'à la destruction du temple, mais que depuis la destruction du temple, elle n'a plus lieu d'être jusqu'au Mashiach. Non, c'est pas du tout pour ça que les religieux, parce que les religieux y viennent, la preuve, tes religieuses étaient là. Donc les religieux y viennent. Mais la preuve, c'est que tu es très religieuse. Et...
Non, par exemple,
attends, c'est pas tout le monde qui porte un chapeau. Les juifs avec un chapeau, c'est les orthodoxes, non? C'est comme ça qu'on les définit. Tu as un chapeau. Tu es juive, tu es orthodoxe. Et donc, tu es là. Donc, c'est la preuve que les juifs ultra-religieux, ils sont là. Non, il y a certaines personnes qui vont s'appuyer là-dessus. Le problème, c'est que tous les décisionnaires de la halakha ont rejeté la vie de Rabbi Moshe Dileon pour embrasser celui du Ramban. Depuis le 12e, 13e siècle et jusqu'à aujourd'hui, pratiquement tous les décisionnaires de la halakha, Pata Shulchan, Aoucha Shulchan, ils ont dit qu'il y a une mitzvah d'habiter en Israël. Donc, ben, il y a une mitzvah. Ça paraît évident. Et ça ne viendrait à l'esprit de personne.
Ils vont répondre que ce n'est pas le moment.
Oui, ils vont répondre que ce n'est pas le moment. Mais le problème, c'est que tu leur répondras que mitzvah abba aliatra al tachmitzena. Que lorsqu'il y a une mitzvah qui se présente devant toi, tu n'as pas le droit de dire je la ferai demain. Et de la même façon que tu ne pourras pas trouver de gens qui vont dire, par exemple, il y a un pauvre, il ne m'a pas demandé la tzedaka, mais j'ai vu qu'il est là. Pas le moment. Tu n'as pas le droit de faire ça. C'est ça ? Routz mise que ça viendrait à l'esprit de personne. De dire, moi je suis un religieux, il n'y a pas de problème, moi je suis fan de Dieu, les mitzvot, je suis pour, juste comme j'adore le jambon beurre, je ne fais pas la cache-route. Mais tout le reste, je fais. C'est-à-dire, tu ne vas pas le prendre au sérieux, et certainement pas en tant qu'avis rabbinique. De la même façon, quelqu'un qui te dit, mais moi, j'adore Dieu, je suis fan, je suis rabbin, c'est juste que j'ai beaucoup de mal à ne pas regarder la télé pendant 24 heures, donc le Shabbat, je ne fais pas. Mais tout le reste, hein, je fais. Hein. Ce n'est pas sérieux. Donc, que dire de quelqu'un qui dit « Non, mais moi, je suis fan de Dieu, mais venir en Israël ?» Pas que je ne peux pas, hein, pas toutes les raisons que vous avez amenées tout à l'heure. Bon, bah, allez. On peut très bien être juif en Khoutzlaret.
En général, ils disent pas « Bon, bah, allez. »
Ah, ils n'osent pas. Non, l'oyachol, il s'arrangera avec Dieu pour savoir si c'est vrai ou pas. Mais ce n'est pas vrai. Tu entends beaucoup de gens qui te disent « Non, écoute, on n'est pas obligé. On peut très bien vivre son judaïsme pleinement à Paris, à New York. »
Ils ont dit que c'est pas possible qu'il n'y ait plus de route.
C'est pas possible qu'il n'y ait plus de route. Là. Arrête et tout ça, machin.
On ne peut pas tous venir ici.
On ne peut pas tous venir ici. Il n'y a pas de place où tu vas les mettre.
Aussi, il y a des choses qui disent mais... Israël a besoin des juifs de la diaspora.
Des juifs de la diaspora, machin. On est très très fort pour se trouver des excuses. Bien sûr, bien sûr. J'ai dit ça dans un cours que j'ai donné à New York au début de la semaine. Et ils m'ont dit mais ok, mais il n'y a pas de place. Où tu vas les mettre, tous les juifs américains ? Je lui ai dit, mais enfin, évidemment, je n'ai pas besoin de place pour les mettre, les juifs américains. Ils ont déjà tous acheté leur maison qui est vide toute l'année. Donc, ils ont déjà leur maison. Qu'est-ce que je te dis ? Nounou. Non, les amis.
Non, ils diffusent la Yahadout.
On diffuse la Yahadout, machin. C'était l'avis du Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Qui disait qu'il fallait rester en Allemagne pour insuffler la bague d'Usha Vetahara. Et les Allemands nous diront merci. Il y a eu un certain bug historique au niveau de la fin de la phrase. En malasot. C'est pas sérieux. Quand tu dis « je ne peux pas » et que c'est honnête, tu ne peux pas pour plein de raisons, bah, tu ne peux pas. Et « anus rachamana patre », quelqu'un qui veut faire une mitzvah et qui ne peut pas la faire, il est considéré comme s'il l'avait faite. C'est-à-dire, mais quelqu'un qui ne veut pas, c'est un vrai problème. Et ce qui est fantastique, c'est que d'afka cette faute-là, ces explorateurs, cette volonté de ne pas venir en Israël, eh bien c'est une faute qui va frapper les Talmidei Chachamim, en particulier, nous dira le Gaon de Vilna. Et deuxièmement, elle revient dans chaque génération. C'est-à-dire qu'à chaque fois dans l'histoire, quand on va avoir une tentative de retour en Israël, vont se lever des voix exploratrices qui vont nous dire non.
Regarde, pour le Gaon de Vilna, il y a quand même une question. Il l'a envoyé.
Attends, le Gaon, il était pour.
Pourquoi lui, il n'est pas parti ?
Ah, pourquoi lui, il n'était pas parti ? Il était déjà vieux.
C'est pour ça que... Non, la question, c'est ça. C'est pourquoi lui, il n'est pas parti ?
Mais il était déjà vieux. Au moment où il a le temps d'envoyer ses élèves, c'est que lui, il est déjà plus, plus tout jeune. Tu aurais pu poser la question pourquoi il n'est pas venu quand il était jeune. Le Rabbi Lubavitch, hein, c'était passionniste. Ah non, il était passionniste. Il était passionniste. Il n'avait aucun problème avec les sionistes. Il avait, enfin, c'est pas vrai non plus ce que je dis. Il aimait tous les juifs d'un amour profond, y compris les juifs d'Eretz Israël. Il était aussi très, très, très attaché au fait que il y a des juifs en Eretz Israël et qu'on ne cède aucun centimètre de territoire aux Arabes. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils pensaient qu'il fallait que tous les juifs soient en Israël. Okay ? Maintenant, quand je vous dis que dans chaque génération, ça revient, bien, je voudrais qu'on fasse un petit peu simplement l'étalage de ces générations. Bon, alors, le premier, c'est les explorateurs de notre paracha. Finalement, après, on va quand même venir en Israël. Et plus tard, dans le Tanakh, dans le livre des rois, on va voir qu'il y a un autre style d'explorateur. Puisque nous sommes attaqués par Sanhérib, le roi de la Assyrie, Chizkiyahou se bat comme il peut, mais il a pratiquement perdu tous ses hommes, et Sanhérib fait le siège de la ville. À ce moment-là, il y a un autre homme dans la ville, qui est, d'après le Talmud, dans le traité de Sanhédrin 26, un Talmud Chacham énorme, il s'appelle Shevna, et ce Shevna, on nous dit même que dans ses cours, il y avait un peu plus de monde qu'ici, il y avait 130 000 personnes.
Il y
avait un zoom, évidemment. Non, mais ce qui est intéressant, ce n'est pas le 130 000. Ce qui est intéressant, c'est que Chizkiyahou, qui lui aussi était un Talmid Chacham énorme, et en plus le roi, n'avait que 110 000 personnes dans ses cours. C'est-à-dire qu'il était meilleur, l'autre. Il y avait plus de monde. Et lui, il a envoyé un message à Sanhérib en disant « Moi, je suis prêt à t'ouvrir les portes de la ville et à me soumettre à toi. C'est que Chizkiyahou qui ne veut pas. » Chizkiyahou a eu très peur. De quoi ? Eh bien, que Dieu décide que Acharé Rabim Leatot, qu'on suit la majorité. On suit la majorité, il a la majorité. Et l'Agmar nous dit que Dieu lui a répondu que Kesher Rechaim Eino Minaminyan, que Shevna, c'est un rachat, c'est un Talmid Chacham, il fait des cours de Torah toutes les semaines, 130 000 personnes. Kekenken, il veut donner la terre d'Israël, il veut se soumettre, c'est un rachat. Vers rachat, on ne rentre pas dans le décompte pour savoir si c'est la majorité ou pas. Donc ça, c'est, on voit qu'il y a eu, maintenant, Shevna, non seulement il voulait donner la ville, mais il savait bien que s'il donnait la ville, bah, le roi Sanhérib aurait tué Chizkiyahou, et il attendait qu'une seule chose, c'est que lui se fasse nommer gouverneur.
Colabo.
Bah. Non, Mazé Colabo, il voulait être calife à la place du calife.
Voilà.
Pas chouette.
Il est no good.
C'est-à-dire que la Mahmoud dit qu'il s'est fait faire creuser un tombeau avec les tombeaux des rois de la dynastie de David. Genre, je veux prendre la place du roi. C'est-à-dire, nous, ça, c'est la version tanarique. Après, à la fin du Tanar, on va arriver à une autre histoire. Ben, on est parti en exil, il y a eu la destruction du temple. Et 70 ans plus tard, ça y est, on a la permission de rentrer. Korèche, le roi de Perse, Cyrus, nous donne la permission de revenir. Nous avons des prophètes qui parlent au nom de Dieu, Haggai, Sraïa, Malachi, qui disent qu'il faut revenir. Nous avons même un descendant direct de David, qui peut être notre chef, Zerubbabel ben Shaltiel. Et les gens ne reviennent pas. Ouais, Machoukazé. Tout le monde reste à Babylone. Lama, qui Tovlem. Tovlem. Maintenant, ça va se prolonger après avec Ezra et Nehemia, où les seuls qui vont venir avec Ezra, c'est les meurtriers, les pauvres, les mamzerim, ceux qui sont mariés avec des goyotes. Parce que tout le high society du peuple juif reste à Babylone et en Perse. Lama, ki tov lahem. On avait parlé tout à l'heure. Je ne veux pas me faire remplacer et je ne veux pas perdre mon confort. Ça ? Bon, mais finalement, Shivat Zion, ben, ça se fait quand même. Ça se fait quand même, mais il ne faut pas croire. Hein, à l'époque du deuxième temple, la majorité juive, elle n'est pas ici. Et petit à petit, ça va un tout petit peu évoluer après la victoire des Hashmonaïm. Puisque là, nous avons un État juif, et donc ça va drainer un petit peu l'Alia. Mais il ne faut pas exagérer, puisque juste après la victoire des Hashmonaïm, il y a plein de juifs qui décident de ne pas venir en Israël, mais cette fois pas parce que Tov Lahem Bagalout, mais par idéal. Ils vont même jusqu'à créer un Bet Amigdash alternatif au Bet Amigdash de Jérusalem. On appelle ça Bet Ronio, qui est mis en place plus ou moins en moins 155. Bet Ronio, c'est un endroit qui appartient à un monsieur qui s'appelle Ronio, un juif. Il en fait un Bet Amigdash, mais pas un truc d'idolâtrie, un Bet Amigdash pour Dieu. Mais à Alexandrie, enfin à 12 km d'Alexandrie. Hein ?
Aux îles
Éléphantines. Non, donc pas très loin d'Alexandrie. En alternatif, c'est au Beth Amikdash de Jérusalem. C'est-à-dire que là, on a un idéal de rester en Galoute.
Et ils sont fait des corbanotes,
là ? Badaï ! Badaï ! Et corbanotes pour Dieu ! La Gemara, elle dit qu'après la destruction du Beth Amikdash, Zemoutar l'a écrit le Beth Ronio. Mais ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'avant, c'est Vadaï interdit. Et pourtant, ils le font. Parce qu'il y a un judaïsme alternatif au judaïsme de Jérusalem. Et je vais vous dire, mieux que ça, il marche. Non seulement il marche, mais la plus grande communauté juive de l'époque du Deuxième Temple, ce n'est pas Jérusalem, c'est Alexandrie. Donc, on a déjà, il y a plus de 2000 ans, trois rebelotes d'explorateurs avec ces trois mêmes composantes, je veux pas qu'on me prenne ma place, ou alors je veux prendre la place de l'autre, je suis bien là où je suis, j'ai un idéal de galoute. Mais vous inquiétez pas, ça va continuer dans l'histoire. Puisque après la destruction du deuxième temple, pendant l'Empire romain, pendant les premières centaines d'années de l'Empire romain, il n'y a pas de discussion, on est encore en train de penser les blessures de la guerre de Bar Corva, mais lorsque la chute de l'Empire romain commence, à partir des années 350, et ce, jusqu'au tout début de la Renaissance, on a un millier d'années, entre 350 et 1350 à peu près, où dans le monde entier, c'est un petit peu... il se passe pas grand-chose, hein, c'est en termes de réflexion. C'est le Moyen-Âge, c'est pas vraiment le moment où les esprits sont... Et donc, la question d'Eretz Israël, chez nous, n'est une question qui... Voilà, elle n'est plus que théorique. C'est plus une question concrète. Parce que pendant les Byzantins, tu ne peux pas venir. Les premiers musulmans vont te laisser venir, mais en fait, ils vont te massacrer. Les croisés, je ne t'en parle pas. Donc, ce n'est pas vraiment concret, la question est-ce qu'on doit venir. Et donc, c'est une question théorique qui se dispute au Beth Amidrash. Il y a pendant un temps le centre névralgique religieux qui est à Jérusalem, mais en Israël, Talmud Yerushalmi, mais dès le 6e siècle, ça chute complètement. Et la Torah, elle est à Babylone, elle est à Bagdad. Et bah, il y aura des idées différentes. On va avoir la Shiva de Soura qui sera un peu plus portée vers l'idée de revenir en Israël. La Shiva de Pompédita qui, elle, au contraire, veut rester à Babylone. Mais c'est théorique pour le moment. Il y a des individus qui vont faire le pas. Mais c'est très rare. C'est très rare et de manière générale, ils se font massacrer dès qu'ils arrivent. Donc on a des gens comme Rabbi Zeira, Ravuna, des gens qui vont venir. Mais c'est l'orbé, quoi. Et puis tout d'un coup arrive le début de la Renaissance. Alors, ce n'est pas encore la Renaissance du XVe siècle, ça commence. Et donc, il va y avoir une nouvelle tentative d'Aliyah au XIIIe siècle. Mais tu ne la connais pas. On appelle ça l'Aliyah des 300 rabbins. Non, personne ne la connaît celle-là. L'Aliyah des 300 rabbins, parce que ce n'est pas un mouvement à un moment, 300 mecs en même temps. C'est sur un prisme d'une centaine d'années. Tu vas avoir 300 dirigeants juifs qui vont, chacun de son côté, monter en Israël. Mais ce n'est pas des petits noms. Certes, tu as du nom de Ligue des champions de rabbins. Hein. Le Ramban, évidemment, on l'a cité tout à l'heure, qui vient à ce moment-là. On a un monsieur comme Rabbi David Hanagid, le petit-fils du Rambam, qui était le chef de la communauté du Caire en Égypte, qui décide de venir. On a, par exemple, le Shla. Non, je dis n'importe quoi. Le Shla, c'est beaucoup plus tard. Pas le Shla, je dis n'importe quoi. Rabbi, voilà, c'est monsieur, ça viendra plus tard. Non, je pensais à Rabbi Yriel de Paris. Ah oui, des Baalé à Tosafot. Ils vont venir ici. C'est un engouement pour être Israël. Tout d'un coup, c'est plus ou moins possible. On est à la fin de la troisième croisade. Les musulmans, les mamelouks sont revenus. C'est un peu plus facile pour les juifs d'arriver. Yalla. D'ailleurs, Rabbi Yichiel de Paris, il est venu s'installer à Akko. Et à Akko, il a créé un bêta midrash qui va s'appeler Midrash Rabba de Parishi. Le bêta midrash à Gadol de Paris, à Akko. Nous, la brioute. Sauf que, évidemment, y a une force qui retient les juifs en Houtz Laharetz, c'est ce qu'on appelle Chassidé Ashkenaz, qui sont la force juive et les communautés du Rhin, tout ça, qui, malgré la décimation qu'il y a eu pendant les premières croisades, sont quand même très, très pro. On reste ici. Pourquoi ? On revient dans le dicton de l'époque. Trop dangereux. Trop dangereux. Nounou.
C'est quand même pas faux.
C'est faux parce que Dieu, il a dit, viens.
Oui, parce que c'est une fin, mais il y a...
Non, encore une fois, Dieu, il a dit, viens. Maintenant, si il ne veut pas que tu viennes, tu n'y arriveras pas. Par exemple, on parle... Oui.
Pourquoi on parle de Yehuda Halevi, pareil que quand il est arrivé.
Il s'est fait massacrer, directement en arrivant. C'est ce que j'ai dit. C'était, on est juste avant cette période-là. Et c'est Rabbi Yehuda Halevi, quand il arrive ici, c'est en plein des croisades. Donc, pendant les croisades, c'est vrai, c'est compliqué. C'est pour ça que pendant cette période-là, les gens ne venaient pas beaucoup. Mais là, on est après les croisades, il y a une opportunité, donc les rabbins la saisissent. C'est-à-dire, mais la question de « on a peur », ben voilà, rebelote. Et puis donc, ça va nous amener 200 ans plus tard, après l'expulsion des Juifs d'Espagne. Il y a une nouvelle opportunité de venir en Israël. D'autant plus que l'Empire ottoman qui vient de conquérir la région en 1517, est dirigé par un juif. Bon, c'est vrai que c'est Suleiman le Magnifique, mais son premier ministre s'appelle Don Yosef Nassi, duc de Naxos, avec sa tante Dona Grazia Nassi, bien sûr. Ils vont même presque mettre en place une principauté juive dans la Galilée. Il est en contact avec Rabbi Yosef Karo et tout ça. Tibériade, Tzfat, bien sûr. C'est le moment. Maintenant, les amis, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe qu'il y a plein de rabbins qui viennent. Là, on peut parler donc des Megourachés Sfarad, il y en a qui vont venir ici, bien sûr. On va parler également, je ne sais pas moi, par exemple, de Rabbi Ishayahu Halevi Horowitz, le Shla Kadosh. Alors, là, il commence à drainer des gens, un petit peu. Rabbi Chaim Ben Attar, Aor Chaim Kadosh.
Qui viennent avec leur communauté.
Alors, pas toute la communauté, mais qui commence à drainer des populations, effectivement. Et ça vient. Mais là, il y a une opposition énorme. Quelle est l'opposition exploratrice de cette époque-là ? Il y a l'opposition exploratrice de cette époque-là, ce sont les rabbins italiens. Ah oui, les rabbins de la Renaissance, en Italie particulièrement, ils se disent, mais pas du tout, mais vous êtes fous. Maintenant qu'il y a la Renaissance, La sagesse, elle se trouve ici, en Italie. En Italie, dans la région, quoi. Il est hors de question d'aller chez les barbares. C'est maintenant qu'on va pouvoir avoir une Torah profonde. Et ça refroidit tout le monde. Et il faut attendre, encore une fois, 200 ans. Oh, il y a le Ramchal, évidemment, qui rentre aussi dans cette période-là, qui vient. Mais il faut attendre d'encore 200 ans pour avoir une nouvelle tentative. Nous sommes à la fin du 18e, 19e siècle. Le nationalisme est dans ses balbutiements et il y a une nouvelle tentative puisque l'Empire ottoman est en train de chuter. Donc, il n'est plus aussi strict sur les interdits pour les Juifs de venir. Il y a une tentative. Et c'est quoi cette tentative? Eh bien là, on va retrouver le Gaon de Vilna. On va voir qui va envoyer ses élèves. Le Baal Shem Tov, d'abord. Le Baal Shem Tov, la Aliyah des Hasidim, c'est 1777, alors que la Aliyah des élèves du Gaon, c'est 1808, 30 ans plus tard. Maintenant, pour ce qui est, par exemple, pourquoi le Baal Shem Tov, il a envoyé ses élèves, il n'est pas venu lui. Il a essayé. Il a essayé et il a été face à tous les problèmes du monde. Il a compris que c'est Dieu qui ne voulait pas. Donc, il est reparti. Mais il a envoyé ses hommes. Rabbi Nachman de Breslav, il a essayé, il a eu tous les problèmes du monde, il est arrivé, ici, il a perdu la boule, alors il est parti. C'est vrai ? Mais il y a cette tentative de Aliyah des Hasidim, et ensuite, Aliyah des Talmidei Hagaon Mevilna, Veyalla, on y va. Qui est à ce moment-là, eh bien, l'opposition exploratrice à l'Aliyah ? Eh bien, pour la première fois, cette opposition n'est plus seulement religieuse. Il y a évidemment une opposition religieuse, bien sûr, vous n'en faites pas. C'est tous les fondateurs du Pilpoul, ça c'est déjà depuis le 15e siècle, le 16e siècle, le rabbi Shalom Sarnay est complètement opposé, ce n'est pas seulement les rabbins italiens. Mais plus tard, ça va être qui les opposants à cette vague? Ça va être la majorité des Litaïm. Ça va être également une grande partie du judaïsme de Hongrie qui se porte en anti, pareil le judaïsme de Pologne, ça c'est pour l'Europe de l'Est. Mais il y a tout d'un coup une opposition à ce sionisme, mais qui est différente. Parce qu'en fait, il va y avoir, après la Aliyah des Talmidei Agra et des Talmidei Hagaon, qui en fait n'est pas suivi véritablement, c'est-à-dire c'est Hamoud, Rabbi Israël Hillel Mishklov, l'élève du Gaon de Vilna qui vient ici et qui écrit le livre Kolator. Il écrit une phrase dans le chapitre 5 incroyable, il dit: c'est vraiment dommage parce que quand nous on est partis, il y avait plein de juifs qui voulaient partir avec nous, mais plein, qui n'étaient pas forcément les élèves du Gaon, mais il y avait plein. Venit kareru al yede kama mitofse a Torah asher lo yavinu velo yedu klum. Ils ont été refroidis par certains rabbins qui ne connaissent rien et ne comprennent rien. On connaît ça. Et puis après, eh bien, arrive le nationalisme et arrive le sionisme médini national de Herzl, mais qui ne commence pas avec Herzl, attention, hein, qui est porté d'abord par le Rav Eliyahu Gutmacher, le Rav Kalischer, le Rav Chaya Al-Kalai, qui là est opposé à son, enfin, qui s'oppose à ces rabbins du sionisme moderne. Eh bien, c'est des rabbins avec un idéal antisioniste, comme on a dit, le Rav Shimshon Refaelevitch, et tout le roug qui va avec. Mais lorsque le nationalisme herzélien commence, eh bien là, on va avoir des opposants énormes qui ne sont plus seulement religieux. J'ai dit, il y en a encore des religieux, évidemment. Je ne vais pas te faire un chidouche en te disant qu'il y a plein de rabbins qui sont opposés à Herzl, hein, c'est pas shoot. Sauf que, pour le coup, là, ça devient facile d'être un explorateur. Ça devient facile de s'opposer au sionisme parce que jusqu'à présent, les rabbins qui s'opposaient, ils s'opposaient à d'autres rabbins. Mais là, les rabbins, ils se disent, c'est facile. Pourquoi je sais que le sionisme, c'est pas cachère.
Les journalistes, c'est les médias.
Non, ils disent pas encore ça. Mais parce qu'à l'époque, les médias, c'était honnête. Non, ils disent, pourquoi est-ce que c'est sûr que c'est pas vrai? Parce qu'il n'est pas religieux. Donc, comme le patron qui porte ça, il n'est pas religieux, c'est la preuve que c'est l'œuvre du Satan, machin. Et c'est là que tu vas retrouver les grands noms antisionistes de l'époque, le rabbi de Sotmar, Reb Chaim de Brisk, l'autre cinquième rabbi de Chabad, fondamentalement antisioniste, Reb Elchanan Wasserman. Là, on est déjà à la deuxième partie du 19e siècle, 20e siècle. on va avoir un Rav Zilberstein, de tous ces rabbins qui sont les plus grands opposants virulents au sionisme. Mais ça, c'est, on va dire, l'opposition rabbinique classique. Mais pour la première fois, il y a deux autres oppositions. L'une, un grand opposant au sionisme, s'appelle le baron Edmond de Rothschild. Eh oui, oui, parce qu'au début, il est très copain avec le baron Maurice de Hirsch, et ils veulent aider les Juifs, mais certainement pas les envoyer en Israël. Ils veulent aller en Argentine. Ce n'est qu'après la rencontre avec le grand rabbin Tzadok HaKohen, ou Tzadok Khan de France, qui va leur dire « Mais enfin, l'Argentine, c'est changer une galoute pour une autre galoute. Il faut les emmener en Israël. » Que le baron de Rothschild va switcher et va les envoyer en Israël. Le baron de Hirsch, lui, va rester. Donc, il y a une opposition de l'élite juive au projet sioniste sous prétexte que ça va attiser l'antisémitisme. C'est pas que c'est dangereux d'aller là-bas, mais d'aller là-bas, ça va nous amener des dangers. C'est connu aujourd'hui énormément. Et puis, il y a une autre opposition qu'on a oubliée, qui est toute nouvelle, qui est une opposition idéaliste, mais pas la même que celle du Rachar Hirsch, qui est une opposition idéaliste encore plus folle. Parce que le Rachar Hirsch, il dit qu'il faut rester en exil parce qu'on a un rôle à jouer en exil. Et lui, il parle de l'Allemagne parce qu'il habite en Allemagne. Non, la réforme, ça sera beaucoup plus tard. C'est-à-dire que pour l'instant, ils sont trop faibles pour parler. Au XXe siècle, un des plus grands opposants au sionisme, c'est le monde réformé. Le XXe. Là, je suis encore au XIXe.
Pourquoi avec
Leopoldin,
c'est Mendelssohn
et... Oui, mais c'est... Non, Mendelssohn, il n'est pas encore opposé au sionisme. La question du sionisme ne se pose pas vraiment à ce moment-là. Mais, si tu veux, ça, petit à petit, ils ne sont pas assez forts au XIXe siècle pour véritablement faire une opposition. Non, non, une autre opposition. C'est-à-dire
tous ceux qui sont dans...
le judaïsme de France. Le consistoire central de France et le grand Sanhédrin de Paris. Ouais. Et oui, on est après la Révolution, on est après Napoléon. Les Juifs de France sont fondamentalement opposés au sionisme. Pas comme le Rachar Hirsch qui disait qu'il faut être en exil pour influer à l'exil. Non ! Parce que la France, c'est la terre promise. Non, pas parce qu'on est bien en France. Parce que la France, c'est l'idéal. C'est l'idéal, la France. Heureux comme un juif en France. C'est devenu l'idéal. Parce que c'est la patrie des droits de l'homme, parce que c'est le pays le plus éclairé, c'est la lumière, c'est les lumières, et donc c'est un idéal. C'est-à-dire que, non, mais là, tu vas plus dans l'antisémitisme. Là, je te parle d'un truc où la France est vue comme étant la nation parmi les nations.
Avant la nationalité française,
bien sûr, la citoyenneté, machin, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Sauf que pour avoir cette citoyenneté, je vous rappelle que les Juifs, par l'intermédiaire du grand Sanhédrin de Paris, ont dû répondre aux 12 questions posées par Napoléon. Parmi elles, est-ce que vous êtes fidèle à une autre patrie ?
Français de religion mosaïque.
Hein ? Ils savaient très bien ce qu'ils voulaient dire. Ils ont dit non.
Dans le privé, mais rien.
Lui-même était assez mais évidemment. Sioniste, Napoléon.
Non, il était. Il avait une admiration pour ce fait de se retourner après 1700 ans vers un endroit, certes. Mais quand il dit tout pour les Juifs en tant qu'individu, rien pour les Juifs en tant que nation, ça lui enlève son côté sioniste. Hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, c'est une autre opposition.
Vous voyez les aider maintenant.
Mais. Ouais, enfin, il s'en fout des Juifs, en vrai. Il n'a juste pas envie que les Juifs soient pour lui des espions à l'intérieur de la France pour d'autres pays.
Cinquième colonne.
Donc, ce n'est pas tellement pour les aider, c'est plus pour s'aider lui. Voilà. Maintenant, on vient de passer 3000 ans d'histoire. À chaque fois, c'est rebelote. Et l'opposition au sionisme actuel, bah c'est toujours le même. Il y a des gens aujourd'hui qui veulent s'opposer au sionisme parce que c'est dangereux de venir en Israël. Il y a des gens qui veulent s'opposer au sionisme, qui disent qu'il ne faut pas venir parce qu'ils ont très bien compris que là-bas, c'est les... J'ai pas envie de dire le numéro 2 de Dieu, c'est le remplaçant de Dieu, puisque dans leur communauté, c'est les patrons ultimes, voilà, et qu'ils savent très bien que s'ils viennent en Israël, ils n'auront absolument pas ni les capacités toraniques, ni rien de... Bah, voilà. Donc, ils ne veulent pas parce qu'ils savent qu'ils seront remplacés par d'autres. Et puis, il y en a d'autres qui disent « Mais on est bien. On est bien ailleurs. » Et puis est née deux nouvelles oppositions. Comme tu disais, le mouvement réformé, bon, mais qui est en train de creuser sa propre tombe par rapport à son appartenance au peuple juif. Mais il y a une autre opposition exploratrice qui a été la première, le premier qui en a parlé, c'est Emmanuel Levinas, dans son livre « Quatre lectures talmudiques », où il dit que pourquoi les explorateurs n'ont pas voulu rentrer ? À cause des Palestiniens. Enfin, des Knaanim. Ils disent « mais il y a des gens là-bas. C'est pas moral. » Et donc, c'est l'opposition du post-sionisme qu'on vit aujourd'hui. Chas v'shalom, une manifestation sur la place Rabin contre l'annexion, avec l'hymne national du Fatah et l'appel à la haine, parce qu'ils ne comprennent pas l'arabe, c'est tout. Ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Et je remarque que dans cette manifestation, il n'y avait pas
de masque.
Mais bon, puisque c'est de la gauche, ce n'est pas très grave. Oui, si cette manifestation avait lieu à Bnei Brak, eh bien, on aurait dit que c'est à cause de Bnei Brak que le monde va s'effondrer. Mais quand tu es de gauche et que tu manifestes à Tel Aviv, tu as le droit de ne pas avoir ton masque.
D'ailleurs, ils ont dit que ce qui se passe, c'est à Tel Aviv.
Nahon, maintenant, la vague de maladie, elle est à Tel Aviv et puis à Bnei Brak. Nahon, en tout cas, ce postmodernisme, c'est une haine de soi. Et c'est tout à fait normal, une fois que tu as donné tous les arguments possibles et tu as vu un par un qu'il ne marche pas. C'est-à-dire, tu as dit que c'était dangereux, on gagne. Ça marche ici. Tu as dit qu'on était mieux là-bas ? Non, le Machber, il est terrible là-bas. Et ici, bon, prochain, ça va au niveau économique. Après, tu as dit, non, mais c'est un idéal là-bas. Là-bas, ils ne te veulent pas. Tu ne peux pas faire ton idéal là-bas. Ici, tu peux même influencer de là-bas. Donc, tous les arguments qui ont été pendant 3000 ans l'argument explorateur ne marchent plus. Mais eux, ils ne veulent pas venir. Donc, il y a un rejet de soi-même et de dire, bah, finalement, le problème, il n'est pas... technique, il est que le problème, c'est les juifs. Mal à Assot, ni à l'époque, ni aujourd'hui, les explorateurs n'ont eu raison. Ceux qui ont finalement gagné et porté haut et fort la volonté du Créateur, c'est Caleb et Yoshua, c'est nous qui avons décidé de tout simplement, comme Caleb. Caleb est parti à Hebron pour les Ishtateach al Kivrei Avot, c'est-à-dire pour s'imprégner de la promesse que Dieu avait faite à Abraham, Isaac et Jacob. Eh bien, nous sommes ceux qui réalisent cette promesse, puisque nous avons passé le pas. Et Nahon, on va à l'Oupane, et c'est difficile. Et Nahon, on se refait une Hevra, et plus on vient tard, et plus c'est difficile, et vous le savez mieux que personne. Mais on se bat, et on y arrive, et puis on se refait une Hevra en français. C'est pas interdit non plus. Zebesader, il y a plein de Français qui viennent, on peut être copain avec des Français, en n'étant pas uniquement avec des Français, mais il n'y a aucun problème, c'est tout à fait normal que plein de nos amis soit des gens qui partagent la culture avec laquelle on a grandi, et il n'y a aucun problème à cela, à condition, encore une fois, que ce ne soit pas unique. Mais voilà, c'est difficile, Nahon, et puis on n'a pas forcément les mêmes facilités dans les études, parce qu'on ne comprend pas forcément tout, c'est Nahon, personne ne t'a dit que c'était facile. Mais c'est la volonté du Créateur, et ceux qui font le pas, eh bien, ça a marché. Ça a marché à l'époque, ça marche encore aujourd'hui, ça marchera encore plus demain. Donc finalement, eh bien, dans cette paracha de Shlach Lecha, on voit que Am Yisrael a fauté par la plus grande faute du désert. Beaucoup plus grave que la faute du Vaudor. La faute du Vaudor a été pardonnée, Rabotai. Finalement, Dieu a dit, Vayomer Hashem, Salarti Kidvarecha. Alors que la faute des explorateurs, toute la génération est morte dans le désert. Pas de panique, nous sommes la génération qui corrige la génération du désert.
Rien d'autre. Mon père, il a dit, au moment de la création de l'État, mm-hmm. Oh là là, ça va permettre aux Juifs d'être Juifs sans être religieux. Ça va être chômeur
à soi.
C'est génial. Oui,
ouais.
Enfin, t'as le compte, il est quand même. Il y a ce problème.
Bien sûr, mais ça c'est vrai. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit que ça arrive. Il y a des gens qui, ont abandonné, mais la majorité augmente. Bien sûr.
Bien sûr. Oui, mais c'est désagréable les gens qui viennent parce que il y a l'antisémitisme.
Leurs enfants, ça sera. Où ils sont
à New York ou à Los Angeles.
Nounou. Zéou. Chazak Baruch.
Chazak Baruch.